Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, c'est parti. Julien Célier, bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ça y est, c'est parti effectivement pour 2 heures d'infos à vos côtés et à la une. Elisabeth Borne qui joue son poste. La première ministre fragilisée mais sur le terrain pour annoncer cet après-midi le prolongement du bouclier tarifaire. Je suis au travail, dit-elle. Elle reçoit aussi ses opposants à l'Assemblée avec pour mission impossible ou en tout cas délicate la recherche d'une large majorité. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un témoignage RTL dans ce journal, celui d'une patiente de la gynécologue devenue secrétaire d'État, Chrysoula Zakharopoulou. Comme deux autres femmes, elle dénonce un viol. Elle n'a pas porté plainte mais assure qu'elle avait signalé les faits. À suivre aussi le port d'armes dans la rue à New York, consacré par la Cour suprême en plein débat sur la circulation des armes aux États-Unis. Et puis le double effet Covid sur l'hôpital. 3 millions de rendez-vous annulés en 2020 et 2021. Des patients aujourd'hui plus gravement atteints qui se retrouvent aux urgences.
Dans un quart d'heure, des trains qui roulent et des trains qui ne roulent pas. Tout d'abord ceux qui roulent. 500 000 billets SNCF en plus pour l'été. Alors comment trouver les précieux sésames? La brigade RTL a enquêté. Et puis à 18h15, grève dans les transports demain en région parisienne. La troisième en un mois, un jour de match au Stade de France. Grève aussi le 6 juillet, date des vacances des enfants. Les syndicats font-ils exprès? Vont-ils trop loin? Débat avec Fabien Villedieu de Sudrail face à Othmane Nasrou, vice-président de la région Île-de-France. Ce sera à 18h15. 18h30, les dessous de l'actu, terminé le PSG bling bling, le public rêvait de Zidane, ce sera Christophe Galtier. À 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé-Labande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous. Le menu. Ce soir, le phénomène des piqûres dans les lieux festifs. Vous allez découvrir comment un acte isolé peut provoquer une angoisse généralisée. Au menu également, des footballeurs qui maîtrisent l'art de la blessure stupide et le plus beau trophée de Zidane qui n'est pas celui que vous croyez.
À 19h15, on va refaire le monde et débattre autour d'Éric Brunet. Le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Encore orageux demain et attention, 37 départements sont actuellement en vigilance orange aux orages.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
Et après l'allocution hier d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne reprend la main. La première ministre s'apprête à recevoir les présidents de groupe de l'Assemblée.
Parmi lesquels les désignés du jour, Marine Le Pen pour le RN, Boris Ballot pour les socialistes, Julien Bayou et Cyrielle Chatelain pour les écologistes, les partis d'opposition qui ont déjà renvoyé la balle au chef de l'État après sa proposition hier de compromis.
Mais la première ministre veut, elle, continuer à discuter. Ce sera aujourd'hui et demain. Elisabeth Borne, qui a cherché Benjamin Sportouche lors d'un déplacement cet après-midi à Paris, à faire taire les critiques et les doutes aussi sur son avenir.
Oui, Julien, Elisabeth Borne à l'offensive contre vents et marées. Le coefficient, disons-le, est assez fort. L'objectif n'a pas changé. Au mieux, débaucher des députés de l'opposition. Au pire, trouver un terrain d'entente ponctuel avec certains d'entre eux pour former une coalition et tout simplement pouvoir gouverner. Elisabeth Borne ne lâche rien. On a souvent sous-estimé son ambition. La première ministre a d'ailleurs très mal pris les attaques inélégantes. C'est le mot de l'une de ses proches, de François Bayrou et d'Edouard Philippe. Dans Paris Match, elle met d'ailleurs en garde « J'ai une certaine autorité naturelle ». Elle fera donc tout pour rester à Matignon, alors que les candidats pour la remplacer sont déjà légion. François Bayrou donc, mais aussi Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin qui ne disent rien, mais n'en pensent pas moins. Alors y parviendra-t-elle? Va-t-elle sauver sa peau? Rien n'est sûr. Si jamais son départ est une condition pour obtenir une majorité, me confiait ce matin un ministre, elle devra partir, quitte à être remplacée par un homme. La crise politique serait alors plus forte que le symbole voulu par Emmanuel Macron après son élection.
Elisabeth Borne qui l'assure aujourd'hui, hein, Benjamin Sportouche, je suis au travail. Et Elisabeth Borne qui a par ailleurs annoncé cet après-midi une prolongation du gel des tarifs du gaz.
Depuis le mois de novembre dernier, on a mis en place un bouclier tarifaire. Et donc ce bouclier tarifaire, nous avons décidé de le prolonger jusqu'à la fin de l'année.
Et pour assurer les approvisionnements, elle veut aussi des stocks gaziers à 100% à l'automne. Et ce, alors que la Russie a coupé le robinet la semaine dernière, mettant en difficulté certains de nos voisins, dont l'Allemagne.
La crise énergétique née de la guerre en Ukraine. Demain, cela fera 4 mois que le conflit a débuté.
Kiev qui attend aujourd'hui, à l'occasion du sommet des 27, la validation de sa candidature à l'Union européenne. Moment historique qu'une centaine de réfugiés ukrainiens est venu attendre à Bruxelles. Bénédicte Tassard les a rencontrés pour RTL.
L'Ukraine, c'est l'Europe. Enveloppée dans le drapeau bleu et jaune, les yeux rougis, la voix tremblante, Stasia ne veut pas croire que les 27 vont dire non à son pays.
Quand ça a commencé, on était installés à Kharkiv dans une cave. Les bombes tombaient très violemment, et cela chaque nuit. Kharkiv est en ruine, et je me dis que peut-être, peut-être, si l'Union européenne nous prend avec elle, alors tout ça s'arrêtera.
À ses côtés, Nastia, plus en colère, veut vous convaincre.
Ukraine a vraiment gagné sa place en Europe. They are fighting the war.
Ils se battent pour l'Europe, pour toute l'Europe. Ils sont en première ligne. C'est l'Ukraine qui meurt pour que la liberté reste en vie.
Toute la journée d'hier encore, le président Zelensky a appelé les Européens pour s'assurer de leur soutien. Mais pas de doute, les 27 vont dire oui d'ici ce soir. Une victoire contre Poutine, même si tout le monde sait qu'entre la candidature et l'entrée effective, il faudra bien du temps.
Un reportage de Bénédicte Tassard, envoyé spécial de RTL à Bruxelles.
RTL 10. 8h06, et après les plaintes de deux femmes contre la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou, un témoignage RTL ce soir.
Celui d'une femme qui dit, elle aussi, avoir été violée à l'époque où Chrysoula Zakharopoulou était gynécologue. Bonsoir Gauthier Delon-Bugard.
Bonsoir.
C'est vous qui venez de la joindre pour RTL.
Exactement, nous venons de la joindre au téléphone. Elle s'appelle Lucie, c'est une femme qui souhaite rester anonyme et qui souffre d'endométriose. Elle a rencontré Chrysoula Zakharopoulou, grande spécialiste de cette maladie en 2018, lors d'une consultation à l'hôpital Bégin. Lucie souhaite témoigner aujourd'hui pour aider les autres victimes et dire qu'elle avait elle-même déjà dénoncé les faits à l'époque. Voici son récit.
Je suis allée au rendez-vous, elle est arrivée en retard, en tenue de sport, elle ne m'a pas regardée dans les yeux, elle m'a dit de m'allonger, elle ne m'a pas prévenue, elle a mis sa main en terre à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'était un poing qu'on m'enfonçait. J'ai eu très mal, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'avais vraiment mal. Et elle a dit, là, normalement, vous devriez crier. Et cette phrase m'a sidérée, vous devriez avoir mal, vous devriez crier. Et elle appuyait, et ça me faisait vraiment très mal. Et ensuite, je me suis rassise, j'ai osé demander si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit, mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfant, vous êtes stérile. Et je me suis mise à pleurer, pourquoi vous pleurez, je ne vois pas d'intérêt.
Voilà, le témoignage très fort de Lucie, donc, que vous venez de recueillir, Gauthier Delon-Bugard. Alors, Lucie n'a pas porté plainte. Pour l'heure, deux femmes se sont tournées vers la justice, hein, contre la secrétaire d'État au développement.
Absolument. Les deux plaignantes dénoncent des faits similaires à ce que l'on vient d'entendre. Des touchés vaginaux et rectaux, sans consentement, prodigués lors de consultations par la secrétaire d'État. Les actes dénoncés remontent tous deux pour ces deux plaignantes à 2016. Dès la réception de la première plainte fin mai, le parquet de Paris a ouvert une enquête afin de jauger si Chrysoula Zakharopoulou était susceptible ou non d'être poursuivie. La deuxième plainte pour viol et violence aggravée a été déposée la semaine dernière. L'enquête est donc en cours. De son côté, le gouvernement faut savoir qu'il faut laisser la justice faire son travail. Chrysoula Zakharopoulou a exercé dans plusieurs hôpitaux parisiens, notamment à Trousseau et Thenon, l'hôpital Thenon où exerce le professeur Dara, visé, lui, par 26 plaintes pour viol. La PHP affirme n'avoir jamais eu connaissance de plainte au sujet de la secrétaire d'État.
Précision et document RTL signé Gauthier Delon-Bugard.
Votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir avec la colère de Joe Biden aux États-Unis. La Cour suprême consacre le droit au port d'armes dans la rue à New York. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Cette décision à présent qui fait grand bruit aux États-Unis. Cet après-midi, la Cour suprême a consacré le droit au port d'armes dans la rue à New York.
Et à l'instant, Joe Biden s'est dit déçu de cette décision. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Décision qui intervient après plusieurs fusillades meurtrières et en plein débat, hein, sur la circulation des armes.
Oui, la tuerie d'Uvalde avec 19 enfants froidement abattus, c'était il y a un mois. Ça n'a eu aucun impact sur les juges et leur décision inquiète beaucoup. Ici, il faut savoir que depuis près de 100 ans à New York, il fallait un motif valable, assez rarement accordé, pour prendre son arme hors de son domicile. La Cour estime que ça entravait le droit à l'autodéfense. Concrètement, n'importe qui pourra venir à Times Square avec son arme de poing, seule condition qu'elle ne soit pas visible. Alors sortir avec son arme, c'est permis dans beaucoup d'États, mais New York, c'est particulier avec la densité de population, le taux niveau de criminalité, ça va être un cauchemar pour la sécurité publique, selon un élu du quartier de Brooklyn. Même en considérant l'importance du droit de posséder une arme dans le pays, cette décision paraît déconnectée de la réalité et même de ce que veulent la majorité des Américains.
Ah, Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL. Un chiffre ce soir qui explique en partie, selon les spécialistes, la crise que traversent les urgences à travers le pays. Au cours des deux années de pandémie, 3 millions de rendez-vous ont été annulés à l'hôpital.
Et ce sont notamment ces patients-là, aujourd'hui, plus gravement touchés que l'on retrouve aux urgences à Gatlandais.
Oui, parce que ce chiffre est quand même très impressionnant. Hein. 3 millions de séjours en moins en cumulé en 2020 et 2021. Si on regarde dans le détail, on voit que sur ces 3 millions, un peu moins de la moitié sont des opérations chirurgicales annulées ou reportées. Tout le reste, 1,8 million, ce sont des rendez-vous annulés dans les services de médecine. Dans un cas comme dans l'autre, qui dit rendez-vous annulé dit parfois retard de prise en charge, des maladies détectées plus tard, des patients plus lourds à gérer quand ils arrivent aux urgences. Le plus inquiétant, c'est que cela continue de s'intensifier, puisque sur les 4 premiers mois de 2022, l'activité en chirurgie est toujours inférieure à la normale, car des déprogrammations ont encore eu lieu en janvier et en février.
Merci Agathe Landé. Enfin, l'impression d'un jour sans fin, à chaque jour ces orages, à chaque jour ces dégâts. Après le sud-ouest et le centre, c'est la Loire qui a été touchée, et notamment la ville de Roanne, où Frédéric Perruche a rencontré un couple de sinistrés dans le quartier des Coteaux.
Ça faisait des belles balles de golf minimum et jusqu'au ball de tennis.
Quand on regardait tomber ça dans la piscine, je peux vous dire que ça faisait des gros... voilà, ça envoyait du lourd.
Du mobilier qui a pris l'eau, les placos qui ont pris l'eau, les chambres des enfants, tout.
Il y avait des fuites partout.
Voilà, et aujourd'hui encore, ce soir, un propos recueilli pour RTL par Frédéric Perruche. 37 départements sont en vigilance orange.
On va justement s'intéresser à cette carte de France, on va dire, des orages. Peggy, 37 départements, on l'a dit, c'est extrêmement compliqué d'anticiper des phénomènes aussi puissants et localisés. Mais où faudra-t-il faire attention dans les heures qui viennent?
Déjà, les orages là sont en train de remonter vers le nord. Donc franchement, prudence, hein, ces 37 départements sont entre la Dordogne, le Tarn, l'Auvergne, Rhône-Alpes, jusqu'au Grand Est. Donc ce soir, ça va arriver sur le Grand Est, et demain on aura encore des orages entre le Massif Central et le Grand Est. Ailleurs, ce sera souvent nuageux avec des averses. Dans l'après-midi, ça ira mieux sur les trois quarts ouest du pays, même si on a encore des averses sur les parties centrales entre le Nord et le Massif Central. Les orages seront sur le flanc Est et la Bretagne retrouvera un temps encore à nouveau perturbé avec un ciel couvert, le tout sous des températures en baisse de 20 à 25 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 29 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup, Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL s'interroge: comment la SNCF gère-t-elle le boom des réservations d'été? Vous l'avez peut-être constaté, réserver des trains vers les littoraux, c'est compliqué, voire mission impossible, tant la demande a explosé. Bonsoir Éric Vanier.
Bonsoir.
Alors ce matin, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, s'est exprimé à la télé. Nous avons mis en vente cet été 500 000 places supplémentaires par rapport à 2019, a-t-il expliqué. Éric, on le précise tout de suite, c'est 500 000 billets en plus. Ils ne vont pas arriver là, demain, sur le site internet de la SNCF. En fait, les places, elles sont déjà là.
Oui, elles ont déjà été injectées dans le système de réservation de la SNCF, car très vite, dès l'ouverture des ventes pour juillet-août, c'était le 9 mars, la direction commerciale s'est aperçue que les billets partaient comme des petits pains. Envie de bouger après les contraintes de la pandémie, hausse du prix des carburants qui fait préférer le train. La SNCF n'avait pas prévu cet engouement, et donc tout de suite, ses programmateurs se sont mis au travail pour essayer d'élargir l'offre de sièges. En revoyant le plan de transport au fil des semaines, ils ont donc réussi à dégager 500 000 places supplémentaires.
Comment la SNCF a réussi à jongler avec les horaires, à agrandir ses trains en quelque sorte?
Ce n'est pas facile, c'est un casse-tête. Pour rajouter un train, il faut une rame positionnée au bon endroit, un mécano et des contrôleurs, et un sillon, c'est-à-dire un créneau horaire disponible. S'il manque un de ces trois éléments, ça ne peut pas fonctionner. La SNCF a retourné le problème dans tous les sens et a finalement réussi à insérer des trains supplémentaires plus simples. Elle a joué aussi sur le dédoublement des rames, deux rames accrochées l'une à l'autre pour augmenter les capacités.
En revanche, on est d'accord, tous ces nouveaux billets, ce ne sont pas forcément des billets pour les trains du vendredi soir, du dimanche soir, les week-ends entre juillet et août.
Non, ne pas se faire d'illusions. Les vendredis, samedis et dimanches de l'été sont saturés vers les destinations touristiques. Mais en acceptant de décaler votre voyage de quelques jours ou de prendre un train aux heures creuses, peut-être très tôt le matin ou tard le soir en semaine, vous aurez plus de chances de trouver de la place. pas de tarification particulière pour ces trains supplémentaires ou dédoublés. En tout cas, ne tardez plus, c'est maintenant.
Les explications de la brigade RTL et les conseils d'Éric Vanier. Merci beaucoup Éric. On vient de parler des trains qui roulent, on va parler de ceux qui restent à quai maintenant. Grève demain dans les transports en Ile-de-France, la troisième en un mois, un jour de match au Stade de France, la finale du top 14 de rugby en l'occurrence. Est-ce que les syndicats font exprès? Est-ce qu'ils vont trop loin? Est-ce que ce moyen de pression est assumé, efficace? On va en débattre avec Fabien Villedieu de Sudrail et Othmane Nasrou, vice-président de la région Ile-de-France. Juste après ça, à tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier.
Les invités d'RTL Soir.
18h, quasiment 20 minutes. Vous écoutez RTL Soir. Bonne fin de journée. Et ce soir, nous nous interrogeons pourquoi ces grèves en série dans les transports en région parisienne. Demain, grève pour la troisième fois en un mois. Un soir de match, un jour de match, en tout cas, au Stade de France. En l'occurrence, la finale du top 14 de rugby. Avec des perturbations sur les lignes RER et Transilien. Les conducteurs dénoncent des plannings qui changent à la dernière minute, des problèmes d'effectifs, de salaire. On apprend aussi ce soir qu'une grève SNCF est prévue le 6 juillet, jour de vacances d'été des petits. D'où cette question. Est-ce que les syndicats font exprès ou au contraire, est-ce qu'ils ont trouvé là un formidable moyen de pression? On va en débattre avec nos invités. Fabien Villedieu, délégué syndicat Sudrail, bonsoir.
Bonsoir.
Et Othmane Nasrou, vice-président LR de la région Île-de-France, bonsoir.
Bonsoir.
Fabien Villedieu, c'est vrai que votre première grève, un jour de finale de Ligue des Champions, avait été très médiatisée. Là, c'est encore demain un jour de finale. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous vous calquez sur la programmation maintenant de l'enceinte de Saint-Denis?
D'abord, c'était une grève de la RATP et nous à la SNCF, je suis nous à la SNCF. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'une grève, c'est un rapport de force. Voilà. Celui qui vous dira qu'une grève, c'est pas un rapport de force, il vous racontera de la flûte. Et je suis
ça
pas
veut dire
eux.
Que ça a plus de sens de la faire un jour.
Et un rapport de force, vous le faites le dimanche soir, entre la nuit, dimanche ouais. à lundi. Voilà. Par contre. Si on fait grève, c'est pas parce que d'abord on va perdre de l'argent. Donc perdre de l'argent, à un moment donné, on parle de pouvoir d'achat. C'est pas pour nous faire plaisir. C'est qu'aujourd'hui, on nous a complètement pourri notre vie. C'est-à-dire que nous, on bosse en horaire décalé. Il faut que les gens un peu ils s'imaginent que on n'est pas en 3-8, c'est-à-dire qu'on a des horaires décalés. Nos horaires sont complètement différents. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de travaux sur l'Île-de-France, et ça c'est plutôt une bonne chose, on nous modifie nos journées la veille pour le lendemain. Je vous demande aux gens de se projeter. Ça veut dire que tout simplement, vous devez chercher votre gosse le lendemain matin, vous avez prévu de le récupérer, on change votre fin de service, vous finissez à 19h, vous ne pouvez pas chercher votre gosse. Donc aujourd'hui, on nous a complètement pourri notre vie depuis plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois qu'on dit qu'il y a un problème, qu'il faut trouver des solutions. On a même challengé, voilà, parce qu'on aime bien challenger les salariés syndicats, on a challengé la direction, on leur a laissé 6 mois pour trouver des solutions. Au bout de 6 mois, ils n'ont trouvé aucune solution. Donc à un moment donné, bah voilà, on est des êtres humains. Voilà.
Ça, vous
on
a envie choix un aujourd'hui. Peu de se. Il faut ce rapport de force, des jours ciblés pour essayer de faire bouger les lignes.
On a essayé la discussion pendant 6 mois. La discussion n'a pas avancé. Donc maintenant, on a essayé une autre carte. Ça va être le rapport de force. Par ailleurs, je tiens quand même à dire qu'on est dans un contexte un peu explosif où ça fait 8 ans qu'on a bloqué les salaires à la SNCF. Donc on n'est pas très enclin à faire énormément d'efforts et qu'on a énormément d'effectifs parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont bien marrés en disant on va arrêter d'embaucher au statut à la SNCF. Super, on n'embauche plus au statut à la SNCF. Du coup, bah, la SNCF n'arrive plus à embaucher. Donc si on n'arrive plus à embaucher, il n'y a pas d'effectif. Et nous, moi, quand je pose un congé, on ne peut pas m'accorder un congé s'il n'y a pas un collègue qui me remplace. Donc aujourd'hui, vu qu'on n'arrive pas à embaucher, et ben, résultat des courses, on n'arrive pas à avoir des congés. Donc c'est un peu, ça rajoute un peu de bordel au bordel.
Othmane Nasrou, vice-président LR de la région Île-de-France, vous entendez les arguments de Fabien Villedieu. Est-ce que vous comprenez que les syndicats, finalement, choisissent désormais des jours ciblés pour essayer d'établir un moyen de pression?
Je pense que ce sont les usagers qui ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre pourquoi, à nouveau, c'est un jour de manifestation sportive qui est choisi comme si l'objectif était de causer un désagrément maximum. Et il y a des précédents malheureux, et ça, vraiment, je trouve que c'est totalement irresponsable. Et puis, ils ne vont pas comprendre parce que cette galère qu'ils vont connaître à nouveau demain va être invraisemblable avec un train sur trois sur certaines lignes et un rapport de force que les syndicalistes cherchent à installer, toujours dans le conflit, toujours dans la confrontation. Et ça, je crois que malheureusement, ça n'aide pas le message que M. Villedieu vient de nous expliquer à l'instant, je pense que beaucoup de Français, beaucoup d'usagers ne comprennent pas et sont fatigués de ces conflits sociaux qui parfois sont préventifs par rapport à une éventuelle mise en concurrence qui n'est pas aujourd'hui en œuvre et qui surtout sont dans une logique toujours de confrontation qui, et ce sont toujours les mêmes qui payent. Donc moi j'aimerais juste qu'on pense à un moment à tous ceux qui demain vont galérer et parfois vont mettre deux à trois fois leur trajet, le temps de trajet habituel pour pouvoir aller travailler ou rentrer chez eux.
Fabien Villedieu, qu'est-ce que vous avez envie de dire effectivement aux usagers qui nous écoutent peut-être ce soir et qui se disent, bon effectivement ça va être la galère demain pour aller bosser, ce sont effectivement souvent des gens qui travaillent loin de Paris, qui n'ont pas toujours de plan B pour se rendre à leur travail et en revenir, est-ce que vous pensez qu'ils vont comprendre votre mouvement ?
On va comprendre, je ne sais pas. En tout cas, moi, je viens d'expliquer une chose, c'est que de toute façon, les usagers galèrent tous les jours. Voilà. Et galèrent en partie parce que Île-de-France Mobilité ne met pas suffisamment d'argent dans la poche, sur la poche, pour investir ne serait-ce que les guichets. Il y a quelques mois, on parlait de la fermeture des guichets en Île-de-France. C'est aussi de la galère des usagers. Donc, je remarque que la galère, elle est à géométrie variable. Quand Île-de-France Mobilité décide de fermer les guichets, eh ben là, on ne parle pas de galère des usagers. Par contre, quand on fait grève, moi, je suis honnête avec vous. Une grève, il n'y a pas de train. Pas de train, il y a une galère. Bah dans ce cas-là, il faut aller au bout de la logique. Du coup, on interdit le droit de grève. On dit, après tout, si effectivement il ne faut plus de galère des usagers, donc il ne faut plus de grève. Je pense que... Je ne sais pas si...
Vous n'allez pas jusque-là, Othman Nasrou, j'imagine.
Je tiens quand même juste à dire quand même qu'en Angleterre, en ce moment, il y a des grèves, qui ont pourtant les lois les plus restrictives contre le droit de grève, mais parce qu'effectivement, il y a des revendications. Moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on ne tape pas un bon coup sur la table, on ne nous entend pas dans ce pays. On ne nous entend pas au niveau de la région, on ne nous entend pas au niveau de la direction. Et qu'il y a de véritables problèmes. Il y a des problèmes sur nos conditions de travail, il y a des problèmes sur les salaires, mais des grèves sur les salaires, il y en a plein en ce moment, y compris sur des journées ciblées. Et il y a des problèmes, effectivement, d'attractivité, d'effectifs, dont je pense qu'y compris la région est un peu responsable, parce qu'elle joue la concurrence entre les entreprises. La SNCF baisse ses conditions sociales et aujourd'hui la SNCF n'arrive pas à recruter et à cause de ce problème de recrutement, c'est la galère tous les jours, pas que les jours de grève dans les transports.
Othman Nasrou, vice-président de la région, justement, vous pouvez répondre.
Mais écoutez, c'est invraisemblable parce que là, vous êtes en combat sur une loi qui a été passée, qui était la réforme du statut. Et vous revenez dessus, vous le dites à demi-mot. Donc votre combat, en réalité, il est politique. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la région, ce n'est pas votre employeur. Si vous avez un souci avec votre direction, il ne faut pas changer de sujet. Nous, on n'a jamais autant investi sur les transports, d'accord ? On investit 40% de plus, notamment sur le matériel roulant, et vous le savez très bien. Mais continuer comme ça à chaque fois à pénaliser les usagers sans qu'on comprenne pourquoi on est obligé d'en arriver à des grèves aussi dures. Et je vous rappelle qu'il y a aussi un débat sur le service minimum. Et encore une fois, que vous ayez un désaccord avec votre employeur, aujourd'hui, je vous rappelle que nous, on est clients de la SNCF et on n'a pas le choix, on n'a aucun moyen de pression sur votre direction, précisément parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc en fait, vous êtes en train d'expliquer aux usagers qu'il y en a qui ont raison de défendre la concurrence. Moi, c'est de plus en plus mon cas quand je vois qu'à chaque fois, on est dans des conflits sociaux comme cela. Et puis, il y en a même qui maintenant défendent l'automatisation des lignes. Je pense franchement que le combat que vous menez n'est pas compréhensible pour les usagers. Je vous le dis très tranquillement, mais je pense que ça n'aide pas à expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes obligé d'en arriver à faire galérer autant des usagers qui habitent loin. Je pense à ceux, par exemple, qui sont à Pontoise ou à Saint-Ouen-l'Aumône sur la ligne H. Ça va être un enfer. Et vous n'arriverez pas à leur expliquer que c'est pour la bonne cause.
On pourrait débattre des heures avec vous deux, sans vous mettre d'accord d'ailleurs, je crois, de l'avenir du rail. Mais juste une dernière question, Fabien Villedieu. Est-ce qu'il y aura aussi des grèves cet été ? Parce que là, on a déjà une annonce de grève pour le 6 juillet. C'est le jour des vacances des plus petits. Est-ce qu'il faut aussi s'attendre à des grèves ciblées cet été ?
Il y aura des grèves le 6 juillet, mais il y aura d'autres grèves tant qu'on aura des politiques qui n'ont qu'un seul objectif, c'est que ceux qui bossent dans la production, ceux qui font vivre le service public...
Vous n'avez pas de ministre des Transports d'ailleurs en ce moment.
Il n'y a pas de ministre des Transports. Le ministre des Transports, il a prévu une pré-retraite. Il est parti dans le Tesla des voitures à hydrogène.
Dont
l'État va financer à grands frais. Mais je tiens quand même à dire qu'au niveau de l'Île-de-France, que la concurrence qui est en train d'être mise en place entre les différents opérateurs, on a vu ce que ça donnait dans les bus, notamment à Transdev. Transdev, une entreprise privée, ils ont fait 2 mois de grève. Donc les grèves, c'est pas le monopole de la SNCF. Mais... par contre, c'est de la responsabilité de la région de mettre en concurrence les salariés. Et aujourd'hui, au bout du bout, Transdev, comme la SNCF, comme la RATP, on n'arrive pas à embaucher. Et monsieur, tous les bus ne sont pas automatiques. On a encore besoin d'êtres humains. Je ne sais pas ce que vous savez, des êtres humains pour faire fonctionner le service public.
On va clore le débat. débat et j'en suis navré. On aura l'occasion de parler des transports collectifs de manière plus large, bien entendu, sur cette antenne dans les jours et les semaines à venir. C'est un débat permanent. Merci beaucoup, Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, d'avoir été l'un de nos invités ce soir sur RTL. Merci à vous, Othman Nasrou, vice-président LR de la région Île-de-France. Petite pause, et puis ensuite, dans RTL Soir, il y aura les dessous de l'actu, les dessous de la révolution au PSG. Terminé le bling-bling, c'est Christophe Galtier et non pas Zinedine Zidane qui devrait s'asseoir sur le banc de touche. Et puis, laissez-vous tenter dernière avec MC Solar, de retour, sur scène et en version symphonique, s'il vous plaît, à tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée RTL Soir, 18h31.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Et Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actualité ce soir.
Le bouclier tarifaire pour le gaz prolongé jusqu'à la fin de l'année. L'annonce d'Elisabeth Borne cet après-midi alors que le robinet russe est désormais coupé. La première ministre qui va recevoir ce soir et demain les présidents de groupe de l'Assemblée. Hier, Emmanuel Macron, dont le parti n'a plus la majorité absolue au Palais Bourbon, a appelé l'opposition à des compromis. Appel rejeté aujourd'hui. Le président américain Joe Biden parle ce soir d'une décision contraire au bon sens, en plein débat sur la circulation des armes aux États-Unis, la Cour suprême a consacré le droit au port d'armes dans la rue à New York.
Merci Marion. Le temps demain, Peggy?
Demain encore des orages. Je rappelle qu'il y a actuellement 37 départements en vigilance orange aux orages, entre la Dordogne, le Tarn en remontant vers le Grand Est. Soyez prudents ce soir et cette nuit. Et demain, des averses orageuses le matin entre le Massif central et le Nord-Est. Ailleurs, un ciel chargé et quelques averses, sauf dans le Sud-Est. Et dans la journée, ces orages vont concerner uniquement le flanc Est. Ailleurs, des pluies plus rares, quelques éclaircies également, sauf sur la Bretagne où ça restera couvert. Le tout sous des températures globalement en baisse, comprises entre 21 et 25 degrés, et jusqu'à 29 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous de la révolution annoncée au PSG. On ne veut plus du flashy, du bling-bling. Ce sont les mots du président Al Khelaïfi cette semaine dans la presse. Bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Comme un symbole, les supporters rêvaient de Zidane entraîneur. Eh bien, ce sera sans doute un autre Marseillais, mais moins starisé, Christophe Galtier.
Alors, le grand public, les médias rêvaient de Zidane, peut-être. Les supporters, c'est moins sûr. Quand Messi a été sifflé au Parc des Princes, rappelez-vous, il y a quelques temps, on l'a dit, ce n'était pas évidemment le joueur immense qui a été rejeté, mais le projet du toujours plus, et parfois un peu n'importe comment. Faire venir Zidane, oui, si le projet est pensé, mais le souhaite-t-il? Je ne crois pas. Est-ce le premier choix de Luis Campos, le nouveau conseiller sportif? Sûrement pas, puisque c'est Galtier, ce choix. Le choix de Nasser El Khelaïfi non plus. En fait, si Zidane avait débarqué à Paris, c'eût été une nouvelle fois le fait du prince, de l'émir en l'occurrence, et donc un projet bancal dès le départ.
Alors, un PSG sans paillettes, dit le président. Mais quand même, on découvre là aujourd'hui que Neymar a été automatiquement prolongé.
Alors, le sera au 1er juillet, ça c'est le jeu des options automatiques décidées lors de la dernière prolongation il y a un an. Ça va évidemment complexifier un peu plus les conditions d'un éventuel départ, puisque le rachat de contrat jusqu'en 2027 devient absolument exorbitant. Mais en tout cas, ça ne change rien au souhait désormais à peine voilé de la direction de le pousser vers la sortie, ou si ce n'est pas possible de le mettre sous pression et d'envoyer un message à tout le vestiaire. Il n'y a plus d'intouchable, plus de passe-droit, tout le monde se remet au travail.
Mais la cohabitation, Galtier, Messi ou Neymar, star mondial, ça peut fonctionner?
Alors déjà, il y a un début à tout. On s'est un peu moins posé la question quand Thomas Tuchel et Unai Emery sont arrivés sans grande expérience de gros vestiaires. La personnalité, le charisme, la gestion humaine, le sens politique, Christophe Galtier coche à peu près toutes les cases. Et surtout, il arrive sur proposition du patron sportif, qu'on a nommé tout à l'heure, Luis Campos, lui-même nommé par le président. Et ça, c'est inédit au PSG depuis 10 ans. Ça veut dire que Galtier parlera dans le vestiaire non pas en son nom, mais au nom du club. Et ça, les stars le savent très bien.
Les dessous du nouveau PSG, tout en sobriété, c'est promis, avec Philippe Sanfourche pour RTL. Moins sûr, la suite au prochain épisode.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h35.
Laissez-vous tenter dernière.
Et place maintenant, vous avez reconnu la petite musique à Laissez-vous tenter dernière. Tous les soirs, c'est le joli moment, la parenthèse qui fait du bien. Parenthèse culture avec Julia Molcou. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors on va partir en tournée aujourd'hui avec l'une des figures musicales des années 90, de ma jeunesse, de la vôtre aussi,
oui,
j'imagine, chère Julia. L'un de ceux qui a contribué à faire connaître le rap au grand public français, un certain MC Solar.
L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline.
Né à Dakar le 5 mars 69, Claude M. Barali, alias MC Solar, arrive en France à l'âge de 6 mois. Plutôt pas mauvais élève et très doué en football, le jeune Claude a déjà, adolescent, une passion, le rap. En 90, il commence à enregistrer des maquettes et en 1991, sort son premier album, Qui sème le vent, récolte les tempos, sur lequel on trouvait bien sûr Caroline, mais aussi Bouge de là ou encore Victime de la mode. Il en vendra 400 000 exemplaires et obtiendra une victoire de la musique.
Le vent souffle. En Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue du bang.
Après Qui sème le vent, récolte le tempo, suivront Pros Combat et Paradisiaque.
J'avais la cassette.
Mais non, dans un petit
la
baladeur.
La cassette audio avec le Walkman, ouais.
Avec les écouteurs.
Les écouteurs en mousse jaune.
Oh là là,
la classe.
Est-ce qu'on peut avoir une photo pour la
non,
page Instagram?
Non, ça c'est dossier,
dommage.
Ça.
Bon alors, Pros Combat et Paradisiaque sont deux autres albums vraiment mythiques d'MC Solar. Et justement, à l'occasion de la réédition de ses trois premiers disques, eh bien MC Solar vient d'entamer une très grande tournée baptisée MC Solar New Big Band Project, lors de laquelle il va reprendre ses plus grandes chansons, mais accompagné cette fois de chœur, de cuivre, de cordes, une nouvelle façon de chanter ses mots et de mettre en avant son flow.
Obsolète, mais stylée, la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède le double A. La variété, ça, c'est Solar, l'arbalète. Keeping, c'est exolité, alite, l'élite. Qui l'apporte depuis des décennies. Une main passe sur mon art pour qu'il avance au ralenti.
Mais MC Solar en version symphonique avec les cuivres, c'est donc à découvrir tout l'été. Il sera à l'affiche de nombreux festivals partout en France. Et puis, à la fin du mois d'octobre, il posera ses valises pour quelques soirées magiques à la Philharmonie de Paris.
Ah ouais.
Franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir et de l'applaudir, vous verrez qu'à 50 ans passés, MC Solar n'a rien perdu de sa superbe.
Je vais réserver mes places parce que Solar à la Philharmonie, qui est une salle que j'adore à Paris, ça vaut le coup d'oreille, j'imagine.
Je pense que ça va être fou.
Ça va être fou, très bien, on ira ensemble. Merci beaucoup, Julien Molko. On ira aussi avec Peggy.
Ah oui, j'adore.
Il
passe me prendre.
Vous aussi, c'est
on ira tous ensemble.
On va réserver des tickets.
Ah, sauf si vous vouliez y aller qu'avec Peggy, mais on allons-y tous ensemble. Rien.
Non, si vous pouvez éviter de me retrouver seul avec Peggy.
Ah, on est d'accord,
un peu fatigant. Dans quelques secondes, RTL Soir va se poursuivre. On va défaire le monde avec donc Cyprien, Laurent et Céline qui nous ont rejoints. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Et on va défaire ce si mystérieux phénomène des piqûres depuis quelques semaines un petit peu partout en France. A tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.